Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le second tour de l'élection présidentielle dimanche prochain en France, le programme de Marine Le Pen est d'une brutalité sociale insoutenable. Des mots du porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault, le DAL qui s'est rendu hier devant les QG des deux candidats. Jean-Baptiste Hérault sera l'un de nos invités. L'invité de Pluriel à 19h est Édouard Dorian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Il appelle les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour le président sortant, extrait dans votre journal. Au lendemain d'un tir de roquettes depuis la bande de Gaza, Israël a répliqué par des frappes aériennes ce mardi. Plus de 270 Palestiniens ont été blessés ces derniers jours lors de heurts avec les forces israéliennes à l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Au moins 6 morts dans un attentat en Afghanistan, 3 explosions ont frappé une école pour garçons d'un quartier de l'ouest de Kaboul. C'est arrivé entre le 27 et le 31 mars dernier à Moura, dans le centre du Mali. Les témoins et l'ONG Human Rights Watch rapportent des centaines d'exécutions sommaires de civils, des viols et des actes de pillage commis par des soldats maliens et des combattants étrangers. Nous écouterons le journaliste et écrivain Sedi Kaba. Washington annonce la tenue d'un sommet mondial contre le Covid-19. Ce sera le 12 mai prochain. Objectif, se préparer aux menaces futures liées à la santé. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, les électeurs sont appelés à se prononcer dimanche prochain en France pour choisir leur président de la République. Des candidats interpellés hier sur la question du droit au logement lors de rassemblements à Paris, le porte-parole du DAL s'est rendu devant les QG des deux candidats, Jean-Baptiste Hérault, qui estime que le programme de Marine Le Pen est d'une brutalité sociale insoutenable. Entretien.
C'est un usage, hein, depuis 2012, on fait le tour des finalistes tôt le matin. Histoire de dire qu'ils nous entendront là, on sera pas dans le bruit des voitures et la fureur de la journée. Et donc on vient demander le respect, l'application du droit au logement pour tous et pour toutes, sachant que bon là on a comme en 2017 d'ailleurs des positionnements à la fois donc à caractère xénophobe qui viennent du côté de Marine Le Pen, hein, qui menace en quelque sorte près de 600 à 700 000 ménages, hein, qui sont étrangers et qui pourraient être expulsés assez pour laisser la place prétendument aux Français. C'est là une véritable, ça serait un drame pour tous ceux et celles qui vivent, qui ont un logement, hein, qui se retrouveraient dehors.
Voilà, ce serait selon vous la conséquence concrète de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. C'est important son programme justement sur cette question.
Oui, c'est d'une brutalité sociale et physique insoutenable. On pense à des familles avec enfants, beaucoup d'ailleurs qui travaillent, qui ont un emploi, qui font des sales boulots là, qui ça se trouve c'est qui nettoie aussi le bureau et les bureaux du Rassemblement National. Et donc on est là pour dire que le droit au logement doit s'appliquer pour toutes et tous, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit la religion, quelles que soient ses opinions politiques. Et voilà. Donc et ensuite on va justement voir Monsieur Macron qui lui mène une politique libérale du logement et donc qui est moins violente comme ça en apparence, mais n'oublions pas qu'il a baissé les APL, qu'il a coupé les aides à la production de logements sociaux et que on voit tout doucement aussi arriver, on va dire les requins autour du logement social pour se faire de l'argent dans le prochain quinquennat. Donc évidemment ce que nous redoutons le plus, ça serait l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, hein, parce qu'il y aurait des violences immédiates, très rapides, hein, qui se mettraient en place, des formes d'expulsion, etc. Et puis qui coupe la France en deux, en fait. Hein. Donc ça, de ce point de vue-là, pour nous, c'est inacceptable. Mais nous battrons si jamais l'un et l'autre arrivent au pouvoir pour que le droit au logement soit mis en œuvre.
C'est important, vous ne les renvoyez pas dos à dos.
Non, on les met pas dos à dos. On fait quand même la différence. Il y en a un qu'on connaît, donc on le pratique et on lui fera un troisième tour social, logement. Troisième tour logement social. La première, c'est sûr qu'elle est la plus dangereuse, c'est incontestable. Donc raciste, xénophobe, islamophobe et autres, enfin bref, tout, on connaît hein, le positionnement général. Et donc l'idée, son idée générale, c'est évidemment d'opprimer encore plus les personnes d'origine étrangère, d'ailleurs avec ou sans papier. Alors là, nous sommes avec les familles qui travaillent, qui ont justement un titre de séjour ou qui sont de nationalité française. Bon, certaines d'entre elles ont voté au premier tour et voteront au deuxième tour. Et donc, qui travaillent pour la plupart, mais on pense aussi à toutes ces familles handicapées. Par exemple, le petit mot qui est dit par son directeur de campagne, que ceux qui travaillent pas depuis un an seront renvoyés dans leur pays. On pense aux familles, aussi aux personnes handicapées, invalides, les personnes âgées. On pense à ces femmes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont fatiguées, qui ont arrêté de bosser parce qu'elles sont épuisées, et puis elles sont occupées de leurs enfants aussi. Voilà, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. C'est inhumain, ça serait inhumain évidemment de procéder de cette manière-là. Donc pour nous, en tout cas personnellement, j'irai voter contre Marine Le Pen au deuxième tour, personnellement, mais ce n'est pas une consigne qui est donnée par l'association.
Et vous déplorez une forme de banalisation aujourd'hui, ces idées d'extrême droite ?
Ben oui, bien sûr. Pour nous, on voit que le score, là, la candidate xénophobe prend du poids. Voilà, on a une campagne qui a démarré sur des sujets à caractère raciste et xénophobe. Et qui vise évidemment à diviser hein, la population, à lever les uns contre les autres. En tout cas, pour nous, droit au logement, on se range résolument du côté de tous les mal logés, de tous les sans logis, de tous les demandeurs de logements sociaux. Pour nous, il faut réaliser 300 000 logements sociaux par an. Il faut augmenter les APL, il faut baisser les loyers dans le secteur privé pour que tout le monde puisse se loger aussi correctement sans avoir à mettre la moitié de son revenu dans le loyer. D'ailleurs, c'est étrange parce que ni l'un ni l'autre ne parle de la cherté du logement. Or, la crise du logement, elle prend sa source dans ces politiques qui ont encouragé le logement cher et qui ont fait monter les loyers, les prix de l'immobilier, la spéculation immobilière et l'enrichissement de ceux que des petits malins de la famille, ils ont des héritiers, qui ont des bonnes relations avec les banques. En général, c'est les deux.
Une victoire de Marine Le Pen, ce serait pour vous une mise en danger des associations comme celle dont vous êtes le porte-parole ?
Oui, écoutez, on verra ça. Nous, pour l'instant, ce qui compte, c'est que le droit au logement pour tous et toutes triomphe. Voilà, donc... on n'a pas peur.
Le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault. Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours entre les deux candidats aura lieu ce mercredi soir. Et ce mardi soir à 19h, l'invité de Pluriel est Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès, soutien d'Emmanuel Macron. Il appelle les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour le président sortant, Eduardo Riancipel.
Je pense que Jean-Luc Mélenchon peut encore mieux faire. Il peut aller au-delà de dire « aucune voix pour Marine Le Pen ». Il a été très clair là-dessus. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon pourrait dire quel est son choix personnel à lui. Je pense que quand on a été candidat à l'élection présidentielle, on peut dire quel est son choix personnel. Je voudrais vraiment laisser ça à M. Zemmour de ne pas dire pour qui il avait voté en 2017 la dernière fois. Quoique M. Zemmour est très clair. Je rappelle à vos auditeurs aussi. M. Zemmour qui insulte une grande partie des Français, qui a cru bon de faire campagne en pointant les musulmans de France, en stigmatisant nos compatriotes de confession musulmane, en les prenant pour les boucs émissaires, et ils savent mieux que moi, mieux que quiconque, ce qu'ils ont ressenti, la rage et la douleur quand ils entendent chaque mot de Monsieur Zemmour. Ça sonne comme des balles qui vous frappent le corps. Moi, je sais ça et j'ai envie de le dire à mes compatriotes. Alors, vous êtes des Français. Vous ne vous laissez pas réduire à ça, et vous vous dites, s'il vous plaît, que M. Zemmour, aujourd'hui, est le seul candidat qui appelle à voter Mme Le Pen. Donc moi, quand il y a deux points, ça fait une ligne. Qu'on vienne pas me raconter des histoires avec les chats ou je ne sais trop quoi pour faire les gentils. Moi, ce que je sais, c'est que les Zemmouriens, ils appellent à voter pour Mme Le Pen. Dont acte. Et je veux que cette population française se mobilise en masse. Je veux que les jeunes se mobilisent en masse. Et donc je dis aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pensent aujourd'hui s'abstenir pour plein de raisons qui sont légitimes, personne va faire de votre vote un vote d'adhésion au projet d'Emmanuel Macron. Mais c'est un vote pour mettre une grande claque dans la figure du nationalisme français, pour mettre une grande claque dans la figure de l'extrême droite française et de ne pas laisser passer les Le Pen. Donc moi, je dis qu'il y a encore quelques jours, les gens réfléchissent, il faut respecter le temps des électeurs, de leur méditation. Moi, je ne veux rien forcer, j'ai envie de faire confiance, mais je dis ce que j'ai à dire. Prenez du recul, regardez bien, et si certains parmi vous estiment quand même qu'on ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas prendre le moindre risque, et même pour l'image de la France, pour que chacun de nous demain se regarde dans la glace en se disant « j'ai fait le bon choix », demandez-vous dans 10 ans, quand vous repenserez à ce moment, ce que vous direz à vos enfants sur l'attitude que vous avez eue entre les deux tours et le vote au second tour.
Eduardo Rian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, soutien d'Emmanuel Macron. Il est l'invité de Pluriel à 19h, une émission présentée par Loïc Barrière. Plus de 170 personnes, en très grande majorité des Palestiniens, ont été blessées ces derniers jours sur l'esplanade des mosquées. La Jordanie, qui administre l'esplanade, a, selon les mots du roi Abdallah II, appelé Israël à mettre fin aux mesures illégales et provocatrices qui mènent vers une plus grande escalade. L'aviation israélienne a mené des frappes dans le sud de la bande de Gaza, des frappes après un tir de roquette vers Israël, une roquette interceptée par un bouclier antimissile. Un attentat en Afghanistan, 3 explosions ont frappé ce mardi matin une école pour garçons d'un quartier de l'ouest de Kaboul. Il y a au moins 6 morts. Les déflagrations se sont produites au moment où les élèves sortaient de classe. Ces dernières années, ces derniers mois, ce quartier a été la cible de plusieurs attaques revendiquées par la branche régionale du groupe terroriste État islamique. C'est arrivé entre le 27 et le 31 mars dernier à Moura, dans le centre du Mali. Des témoins et l'ONG Human Rights Watch rapportent des centaines d'exécutions sommaires de civils, des viols et des actes de pillage commis par des soldats maliens et des combattants étrangers. Une version contredite par l'armée malienne qui a repris le pouvoir dans le pays par la force en 2020. Elle assure avoir neutralisé 203 djihadistes lors d'une opération d'envergure. Le journaliste, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique et écrivain Sédic Abba, auteur notamment de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation chez Impact Éditions. Sédic Abba.
L'armée malienne a revendiqué une opération à Moura qui est dans le centre, une ville, une petite ville, même un village qui est dans le centre du Mali, indiquant avoir obtenu des renseignements sur la présence des groupes djihadistes qui seraient venus pour prélever l'impôt. Et à la suite de ce renseignement, l'armée a monté une opération aéroportée qui a duré à peu près entre 4 et 6 jours. Et c'est pendant cette opération que, visiblement, les djihadistes ont été confondus à la population civile. On est arrivé à un massacre que différentes sources situent entre 200 et 300 morts. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte d'émotion planétaire parce que visiblement, des femmes, des jeunes, des enfants ont été massacrés au cours de cette opération qui a été présentée par l'armée malienne comme un énorme succès, alors même que visiblement, même si la présence des djihadistes a été reconnue, il y a beaucoup de personnes innocentes qui ont été massacrées au cours de cette opération des forces armées maliennes.
L'armée malienne qui a assuré avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes au cours de cette opération qui a été menée entre le 23 et le 31 mars dernier.
Oui, mais à côté de cette revendication de personnes djihadistes qui pourraient se trouver, parce qu'une des stratégies des groupes djihadistes aussi, c'est de se confondre à la population civile. Mais visiblement, la conduite de cette opération ne s'est pas faite être avec un professionnalisme qui aurait pu permettre de distinguer certains djihadistes qui étaient peut-être présents du reste de la population qui a été tuée. Toutes les personnes, toutes les victimes ne sont pas forcément des djihadistes. Et aujourd'hui, le sentiment général partagé sur place après différents témoignages qui ont été obtenus de première main, c'est qu'il y a eu plus de personnes non djihadistes massacrées que de vrais djihadistes massacrés. Et on comprend jusqu'ici les réticences des autorités maliennes à laisser se faire une enquête indépendante qui est réclamée de par le monde, par les organisations de défense des droits de l'homme, par les États-Unis, par la France, par l'Union européenne. Tout le monde réclame une enquête indépendante. Si tant est que l'armée malienne n'a massacré que des djihadistes, il n'y a pas de raison qu'elle fasse obstruction à la mise en place d'une enquête indépendante sur ce qui s'est passé à Moura.
Vous évoquez ces témoignages, des témoins évoquent des exécutions liées à l'origine ethnique des personnes.
Oui, beaucoup de gens disent que À Moura, les Peuls ont été particulièrement ciblés, puisqu'on présume que la plupart des djihadistes, et c'est la Katiba Massina de Amadou Koufak qui était la cible de cette opération. Beaucoup de Peuls, visiblement, ont été exécutés sans avoir partie liée avec les mouvements djihadistes. Eux-mêmes, peut-être, ont peur de ce que les djihadistes font dans la région, mais ces personnes ont été tuées uniquement sur la base de leur appartenance ethnique. Et ça, je pense que c'est un fait gravissime. C'est quelque chose qui fait entorse à la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que le fait de commettre ces exactions de cette dimension affaiblit la lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas des victoires comme ça qui peuvent arranger les choses, parce que on a remarqué que l'injustice nourrit le départ des jeunes dans le terrorisme. Aujourd'hui, des jeunes peuls d'autres régions du Mali vont dire que leur ethnie est ciblée et ils vont s'engager massivement dans ces groupes armés. On n'en sortira pas. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il faudra faire une enquête indépendante, faire toute la lumière. Et si des erreurs ont été commises, si des responsables, des coupables ont été identifiés, il faut qu'ils en répondent devant les juridictions.
Sédic Abba, journaliste, écrivain, il est notamment l'auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation, chez Impact Éditions. Plusieurs dizaines de réfugiés africains ont participé hier pour le troisième jour consécutif à un sit-in devant des bureaux de l'ONU à Tunis. Ils veulent être évacués vers d'autres pays. La majorité de ces personnes a été secourue au large de la Tunisie après le chavirage de leur embarcation alors qu'elle tentait de rejoindre clandestinement le continent européen. L'agression russe en Ukraine. Le président ukrainien a annoncé que la Russie avait lancé une offensive majeure dans l'est du pays. Ailleurs en Ukraine, les bombardements se poursuivent, notamment sur le Donbass. Sur le front humanitaire, aucun couloir d'évacuation des civils n'a pu être organisé en Ukraine, faute d'accord avec la partie russe, et cela pour le troisième jour consécutif. Washington annonce la tenue d'un sommet mondial sur le Covid-19. Ce sera le 12 mai prochain. Objectif, se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu en virtuel, sera coprésidée par les États-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Sénégal et le Belize. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Radio Orient qui diffuse les prières Tarawih chaque nuit à partir de minuit durant le mois de Ramadan. Vous pouvez écouter l'ensemble des émissions en podcast sur votre site internet radioorient.com. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.